Erit Miki Testes, vous serez mes témoins. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bien chers confrères de la Fraternité Saint-Pédis, bien chers fidèles du Valais, merci beaucoup pour l'honneur que vous nous faites à l'occasion de cette cérémonie commémorative du retour de votre cher canton à la vraie, à la pure foi catholique. Si vous nous avez invités, c'est avant tout par reconnaissance pour la part si importante qu'avaient pris nos anciens pères capucins de la province de Savoie dans cette victoire sur le protestantisme. Ils avaient mis des mois à remonter la vallée du Rhône depuis Monthey jusqu'au plus haut d'Ixin, supportant le froid, la marche, les rebuffades, les injures, les calomnies. Et nous, qui prétendons marcher à leur suite, nous arrivons ici en voiture climatisée pour quelques heures et pour récolter des honneurs. Alors permettez-moi d'ouvrir une parenthèse et de vous demander, à l'occasion de cette cérémonie, de prier pour que nous soyons d'authentiques capucins et aussi que nous ayons des saintes vocations qui puissent faire des apôtres dignes de leurs anciens. Je ferme la parenthèse. Quand on étudie l'histoire religieuse du Valais à la fin du XVIIe siècle, on est frappé de la ressemblance entre la situation qui dominait alors dans le clergé, parmi les fidèles, et la situation actuelle dans toute l'Église. En effet, les chroniqueurs de l'époque nous disent que le Valais avait adopté une religion très hétéroclite. Un mélange bien dosé de protestantisme et de catholicisme, un prototype en somme de l'œcuménisme libéral qui s'évite aujourd'hui dans l'Église post-conciliaire. Le Valais n'était pas encore à l'époque vraiment protestant et il n'était déjà plus vraiment catholique. Les Valaisans n'étaient pas protestants à la manière des Bernois. Ils faisaient toujours partie officiellement de l'alliance des sept cantons catholiques. Ils avaient cependant bien précisé qu'ils appartenaient à l'Église, mais non l'Église romaine. L'Église catholique, mais non l'Église catholique romaine. Ils continuaient à honorer la Sainte Vierge et les saints, et ils admettaient même la nécessité des œuvres pour le salut. Mais le clergé, aussi bien que les fidèles, ne vivaient pas en catholique. Les historiens nous apprennent que la plupart des prêtres n'avaient plus la foi et se moquaient des rites de l'Église, que beaucoup avaient pris femme. Le seul sacrement qu'ils administraient encore correctement était le baptême. Ils ne donnaient plus le viatique ni l'extrême-onction. Les Valaisans se mariaient devant le notaire, le plus souvent un protestant, puisqu'il avait fait ses études à Berne, et il était revenu avec les idées libérales et protestantes. La messe avait fait place à une vague cérémonie où le prêtre donnait une absolution générale après la récitation du Confiteor et distribuait des hosties consacrées ou non. On allait même jusqu'à danser dans les églises au son de l'orgue. L'ignorance religieuse était générale et la morale, comme toujours, encore un degré plus laxiste que celle affichée par les prêtres. Certes, il y avait des exceptions, comme ce brave curé qui avait fait brûler sur la place devant l'église les ouvrages protestants qu'il avait pu trouver dans sa paroisse, mais il fut tellement persécuté par ses confrères et par les notables de la région protestants qu'il en mourut il en mourut de chagrin. Ce triste tableau, mes bien chers frères, n'évoque-t-il pas la situation que nous vivons actuellement ? N'évoque-t-il pas ces abus qui scandalisent les fidèles dans la liturgie, la pastorale, la doctrine, la morale de l'Église conciliaire ? Si ces abus n'étaient que des déviations tapageuses de quelques prêtres d'avant-garde, on pourrait encore se rassurer, espérer, comme il y a 4 siècles, qu'un pape clairvoyant, comme le fut Clément VIII, que des évêques courageux, comme le fut saint François de Sales, saint Charles Borromée, que des missionnaires ardents, comme le père Chérubin de Maurienne, pourraient redresser la situation, remédier à ces abus. Mais aujourd'hui, force est de constater que c'est toute la hiérarchie, de haut en bas, qui donne dans le protestantisme sous couvert d'œcuménisme. Qu'on en juge. C'est bien l'œcuménisme qui a, au Concile, fait changer le rite de la messe et nous a donné une cérémonie à saveur protestante. Nous savons tous, la documentation catholique l'a même affichée dans son numéro de mai 1970, cette revue tout officielle de Rome, où l'on voit en photo 6 pasteurs protestants à côté du pape Paul VI, tout souriant après les travaux qui ont conduit à la nouvelle messe. Et Mgr Baume affirme que ces 6 protestants qui avaient été invités pour faire la nouvelle messe n'étaient pas invités en observateurs, mais il dit bien en vrai collaborateur. Et depuis, il est possible à un prêtre catholique, entre guillemets, et un pasteur protestant de concélébrer selon ce rite. Cela s'est fait, particulièrement dans le diocèse de Strasbourg. C'est bien l'œcuménisme qui a changé nos églises en temples protestants, remplaçant le Saint-Autel en une vulgaire table à manger, dénudant les murs, comme autrefois les iconoclastes, des statues, des chemins de croix. C'est bien l'œcuménisme qui a changé la doctrine traditionnelle en une nouvelle théologie réformée, comme cet accord signé il y a 3 ans entre Rome et la Fédération des Églises luthériennes au propos de la doctrine de la justification, doctrine qui avait été réglée avec des dogmes, avec anathème par le Concile de Trente. C'est bien l'œcuménisme encore qui a poussé nos prélats en 1983 pour le 500e anniversaire de la naissance de Luther de faire son apologie, de le présenter même comme ce président de la Conférence épiscopale d'Allemagne comme le docteur commun des églises chrétiennes. Mes bien chers frères, vous pourriez encore en rajouter. Ces confessionnaux vides, ces divorcés remariés, ces sermons humanistes, ces bibles protestantes à bon marché dans nos librairies catholiques, entre guillemets, ces diacres mariés, la communion dans la main, et j'en passe. À quoi bon accumuler autant de faits qui sont évidents, palpables? Nous n'avons plus actuellement dans la religion post-conciliaire la vraie religion catholique. Comme autrefois dans le Valais, elle n'est pas encore tout à fait protestante, mais elle n'est déjà plus catholique. Et nous-mêmes, nous en sommes menacés, particulièrement de cet esprit libéral qui trouve son origine dans le libre examen, le principe de base de Luther et de ses sectaires. Nous-mêmes, nous ne sommes pas à l'abri de cet esprit libéral. Il y a eu en 1994 un sondage en France pour les catholiques sur leurs opinions, leur foi. Je vous passe tous les chiffres, cela fait mal. Je voudrais seulement, pour bien rester dans cette le sujet de ce sermon. Il était posé comme question: si vous avez une question grave à régler, qu'est-ce que vous suivez d'abord, la position de l'Église ou votre opinion? Tenez-vous bien, 1% des catholiques français a répondu qu'ils suivaient la position de l'Église. 1%, je répète. Alors, mes bien chers frères, si nous voulons retenir une leçon de cette réévangélisation du Valais, non seulement par nos pères capucins, ils n'ont pas été les seuls, loin de là, mais on peut retenir que qu'est-ce qui a fait qu'ils ont pu ainsi remonter toute cette vallée et à nouveau faire revivre la vraie foi dans ce canton. Eh bien, je pense c'est parce qu'ils étaient animés d'un feu sacré. Le feu du cœur de notre Seigneur Jésus-Christ. Le feu de l'esprit de sacrifice, c'est-à-dire un esprit qui est sur l'amour, qui est fondé sur l'amour. L'esprit que l'on doit puiser en contemplant le crucifix. Notez que les croix protestantes n'ont pas de crucifix. On ne voit pas notre Seigneur Jésus-Christ dessus. Alors, certainement qu'à notre époque, il y a un danger qui nous guette dans la tradition, comme dans l'Église, c'est la perte de l'esprit de sacrifice. Nous vivons dans une société civile qui fait tout pour nous faire évader de la souffrance, de l'effort. Nous sommes dans une société avec des anesthésistes, la climatisation, le grand confort, le luxe, les 35 heures. Bref, on fait tout pour nous rendre la vie plus facile. Et la religion moderne va de pair. On essaie de tout rendre plus facile. Il n'y a plus de péché, vous inquiétez pas, ne cherchez pas à avoir beaucoup d'enfants, et le reste. Mélenchon assistait sa mère sur le point de mourir. Celle-ci lui demande: quelle est la bonne religion, la catholique ou la protestante? Et Mélenchon de lui répondre: la protestante est la plus facile, la catholique est la plus sûre. Notre Seigneur Jésus-Christ le dit dans l'Évangile: la voie facile, c'est celle qui mène à la perdition. La voie qui mène au ciel, elle est étroite. Et cet œcuménisme actuel trouve sa négation dans l'Évangile que nous venons de lire. Notre Seigneur est clair: celui qui croira sera sauvé, celui qui ne croira pas sera condamné. Nous devons donc être des témoins de notre Seigneur Jésus-Christ. Comme ces capucins autrefois, être témoin de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est marcher derrière lui, ne pas être des demi-chrétiens, c'est-à-dire des chrétiens qui suivent Jésus, mais qui refusent sa croix. Nous devons prendre Jésus et sa croix. Nous devons vraiment embrasser cet esprit de sacrifice, le demander comme une grâce, malgré tous les efforts du monde, pour justement nous en détacher. Et c'est ainsi que nous retrouverons beaucoup de vocations. C'est ainsi que nous aurons des foyers solides. C'est ainsi que nous pourrons à nouveau reconquérir le monde au cœur de Jésus. Et pas autrement. Certes, la Sainte Messe, les sacrements, tout cela est nécessaire à notre vie spirituelle. Mais si nous n'avons pas l'esprit de sacrifice, qui est justement l'esprit de notre Seigneur sur sa croix, nous ne pourrons pas profiter à plein, nous ne pourrons pas nous sanctifier comme notre Seigneur l'attendait de nous, et nous ne pourrons pas sanctifier les autres non plus. Alors demandons, mes bien chers frères, à la Très Sainte Vierge en ce jour, cette grâce de ne pas être des demi-chrétiens, de contempler notre Seigneur sur sa croix, d'y trouver notre exemple où se mêlent l'amour et la souffrance. L'amour libre, généreux, la souffrance consentie, la souffrance méritoire. Demandons cette grâce à la Très Sainte Vierge, elle qui était restée au pied de la croix, debout, elle qui avait toujours conservé la foi, sa foi n'a jamais défailli, même quand les apôtres ont abandonné notre Seigneur, la Sainte Vierge a gardé sa foi intacte. Demandons cette grâce à la Très Sainte Vierge pour ainsi être des témoins de notre Seigneur Jésus-Christ et espérer, avec sa grâce, pouvoir travailler à notre modeste part au rétablissement de son règne ici-bas et mériter une place au ciel. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.
Spiritu Sanctu. Beati in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Viri Galilei, quid admirat specientes in cielo, alleluia. Quae marmodum vidis Deum ascendentem in cielo, ita Alleluia, Alleluia, Alleluia.
Dans mon premier livre au Théophile, j'ai raconté ce que Jésus a fait et enseigné, depuis le début jusqu'au jour où, ayant donné ses instructions par l'Esprit Saint aux apôtres qu'il avait choisis, il fut enlevé au ciel. Il s'était présenté à eux, vivant après sa passion, avec des preuves multiples, leur apparaissant durant 40 jours et les entretenant du royaume de Dieu. Or, au cours d'un repas, il leur prescrivit de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Promesse, dit-il, que vous avez entendue de ma bouche, car Jean a baptisé avec l'eau. Mais vous, c'est dans l'Esprit Saint que vous serez baptisés d'ici quelques jours. Étant donc réunis, il l'interrogeait et disait, « Est-ce maintenant, Seigneur, le temps où tu vas restaurer la royauté en Israël ?» Il leur dit, « Il ne vous appartient pas de connaître les temps ni les moments que le Père a fixés dans sa propre autorité. Mais vous recevrez la force de l'Esprit Saint venant sur vous et vous serez mes témoins, à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » À ces mots, sous leur regard, il s'éleva et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils étaient là, les yeux fixés au ciel, pendant qu'ils s'en allaient, voici que deux hommes vêtus de blanc se trouvèrent auprès d'eux, et ils leur dirent, « Hommes de Galilée, pourquoi restez-vous à regarder vers le ciel ? Jésus, qui du milieu de vous a été enlevé au ciel, reviendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller au ciel. »
Alleluia. Dominus vobiscum.
Et cum spiritu tuo.
Sequentia sancti evangelii secundum Marcum.
Gloria tibi Domine.
En ce temps-là, tandis que les onze étaient à table, Jésus leur apparut. Et il blâma leur incrédulité et leur dureté de cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru ce qu'il avait vu après sa résurrection. Et il leur dit, « Allez par le monde entier, prêchez l'Évangile à toute la création. Qui croira et sera baptisé sera sauvé, qui ne croira pas sera condamné. Et voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront des langues nouvelles, ils prendront en main des serpents, et s'ils boivent un poison mortel, il ne leur fera aucun mal. Ils imposeront les mains aux malades, et ils seront guéris. » Et le Seigneur Jésus, après leur avoir ainsi parlé, fut enlevé au ciel, et il s'assit à la droite de Dieu. Pour eux, ils s'en allèrent prêcher en tout lieu. Le Seigneur était à l'œuvre avec eux et il confirmait la parole par les miracles qui les accompagnaient.
Thank you. qui post resurrectionem suam, omnibus discipulis suis manifestus apparuit, et ipsis occernentibus est elevatus in caelo, ut nos divinitatis suae tribuere et esse participes, et ideo cum angelis et arcangelis, cum tronis et dominationibus, cum quae omni militia celestis exercitus, hymnum gloriae tuae canimus, sine fine dicentes.
Dimite nobis debita nostra,
sic ut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem.
Et libera nos a malo.
Per omnia saecula saecula horum.
Amen.
Pax Domini sit semper vobiscum.
Et cum spiritu tuo. Agnus Dei, qui tollis peccata mundum, Agnus Dei,
Apostolis Petro et Paolo, Beato Patri Nostro Francisco, Omnibus Sanctis et Tibi Paten, Quia Pecavinimis Cogitatione Verbo et Opere, mea culpa, mea maxima culpa. Ideo Precor Beata Mariam Semper Virginem, Beatum Michaelem Arcangelum, Beatum Ioannem Baptistam, Sanctos Apostolos Petrum et Paulum, Beatum Patrem Nostrum Franciscum, Omnes Sanctos et Te Pater, Orare pro mea Dominum Deum Nostrum.
Miserato vesti omnipotentius, et dimissis peccatis vestris, perducat vos ad vitam et amam. Innocentiam absolutionem et remissionem peccatorum vestrorum tribuat vobis omnipotens et misericors Dominus.
Amen. Ecce agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi.
Domine nos sumilios ut impresso peccum meum. Salite Domini. Quia ascendis super celos, Alleluia.
dominicam domino mi doni tempore. Semper os eius in nobe meo. In domino laudabito anima mea. Audiant mansueti et letentu. Magnificate Domino mecum, et exaltemus nomen eius in idipsum. Exquisivit Dominum et exaltivit me, et ex omnibus tribulationibus meis servi puit me. Sarite Domino, qui accendit super celos,
invisibili consequamur effectus, per Dominum nostrum Iesum Christum filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sanctus, per omnia saecula saeculorum.
Amen.
Dominus vobiscum,
et cum spiritu tuo.
In Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.